Alfred de Musset, La confession d'un enfant du siècle. Première partie, chapitre 10. Au moment où je m'étais aperçu que cette fille ressemblait à ma maîtresse, une idée affreuse, irrésistible, s'était emparée de mon cerveau malade, et je l'exécutais tout à coup. Durant les premiers temps de nos amours, ma maîtresse était venue quelquefois me visiter à la dérobée. C'était alors des jours de fête pour ma petite chambre. Les fleurs y arrivaient, le feu s'allumait gaiement, les rayons poudreux voyaient se préparer un bon souper. Le lit avait aussi sa parure de noces pour recevoir la bien-aimée. Souvent, assise sur mon canapé, sous la glace, je l'avais contemplée durant les heures silencieuses où nos cœurs se parlaient. Je la regardais pareille à la fée Map, changer en paradis ce petit espace solitaire où tant de fois j'avais pleuré. Elle était là, au milieu de tous ses livres, de tous ses vêtements épars, de tous ses meubles délabrés. Entre ces quatre murs si tristes, elle brillait comme une pièce d'or dans toute cette pauvreté. Ses souvenirs si doux, depuis que je l'avais perdue, me poursuivaient sans relâche. Ils m'ôtaient le sommeil. Mes livres, mes murs me parlaient d'elle. Je ne pouvais les supporter. Mon lit me chassait dans la rue. Je l'avais en horreur quand je n'y pleurais pas. J'amenais donc là cette fille. Je lui dis de s'asseoir en me tournant le dos. Je la fis mettre demi-nu, puis j'arrangeai ma chambre autour d'elle comme autrefois pour ma maîtresse. Je plaçai les fauteuils là où ils étaient un certain soir que je me rappelais. En général, dans toutes nos idées de bonheur, il y a un certain souvenir qui domine, un jour, une heure qui a surpassé toutes les autres, ou sinon, qui en a été comme le type, comme le modèle ineffaçable. Un moment est venu, au milieu de tout cela, où l'homme s'est écrié comme Théodore dans Lope de Vega, « Fortune, mets un clou d'or à ta roue !» Ayant ainsi tout disposé, j'allumai un grand feu, et m'asseyant sur mes talons, je commençai à m'enivrer d'un désespoir sans borne. Je descendais jusqu'au fond de mon cœur pour le sentir se tordre et se serrer. Cependant, je murmurais dans ma tête une romance tyrolienne que ma maîtresse chantait sans cesse, « Altra volta geri biele, blanche rossa come un fiore, ma ora no, non su più biele. » Consumatis d'alamore. J'écoutais l'écho de cette pauvre romance résonner dans le désert de mon cœur. Je me disais, voilà le bonheur de l'homme, voilà mon petit paradis, voilà ma fée Map. C'est une fille des rues. Ma maîtresse ne vaut pas mieux. Voilà ce qu'on trouve au fond du verre où on a bu le nectar des dieux. Voilà le cadavre de l'amour. J'étais comme un homme assis sur les ruines d'une maison où il a passé son enfance. Il regarde pousser l'herbe sur les souvenirs de sa vie. Et les courbeaux battent de l'aile autour de lui. La malheureuse, m'entendant chanter, se mit à chanter aussi. J'en devins pâle comme la mort. Car cette voix rauque et ignoble, sortant de cet être qui ressemblait à ma maîtresse, me paraissait comme un symbole de ce que j'éprouvais. C'était la débauche en personne qui lui grasseyait dans la gorge, au milieu d'une jeunesse en fleurs. Il me semblait que ma maîtresse, depuis ses perfidies, devait avoir cette voix-là. Je me souvins de Faust qui, dansant au Brocken avec une jeune sorcière nue, lui voit sortir une souris rouge de la bouche. « Tais-toi !» lui criai-je. « Viens là et gagne ta pitance !» Je la jetai sur mon lit et m'y étendis à côté d'elle, comme ma propre statue sur mon tombeau. À ce moment, je sentis dans ma tête comme une roue de moulin qui s'ébranlait. « Tourne donc » dis-je à mon ivresse. « Tourne sur moi, meule hideuse, et broie cette cervelle souffrante !» La créature me regarda en souriant. Elle se pencha sur moi. Que Dieu me pardonne cette nuit. J'ai bu un plus amer calice que celui que les anges apportèrent au Christ en détournant la tête dans le jardin des oliviers. Je vous le demande à vous, hommes du siècle, qui à l'heure qu'il est courez à vos plaisirs, au bal ou à l'opéra, et qui ce soir en vous couchant, lirez pour vous endormir quelques blasphèmes usés du vieux Voltaire, quelques badinages raisonnables de Paul-Louis Courier, quelques discours économiques d'une commission de nos chambres, qui respirerait en un mot, par quelqu'un de vos pores, les froides substances de ce nénuphar monstrueux que la raison plante au cœur de nos villes. Je vous le demande, si par hasard ce livre obscur vient à tomber entre vos mains, ne souriez pas d'un noble dédain, ne haussez pas trop les épaules, ne vous dites pas avec trop de sécurité que je me plains d'un mal imaginaire, qu'après tout, la raison humaine est la plus belle de nos facultés, qu'il n'y a de vrai ici-bas que les agiotages de la bourse, les brelans au jeu, le vin de Bordeaux, à table, une bonne santé au corps, l'indifférence pour autrui, et le soir au lit, des muscles lascifs recouverts d'une peau parfumée. car, quelque jour, au milieu de votre vie stagnante et immobile, il peut passer un coup de vent. Ces beaux arbres, que vous arrosez des eaux tranquilles de vos fleuves d'oubli, la Providence peut souffler dessus. Vous pouvez être au désespoir, messieurs les impassibles. Il y a des larmes dans vos yeux. Je ne vous dirai pas que vos maîtresses peuvent vous trahir. Ce n'est pas pour vous peine si grande que lorsqu'il vous meurt un cheval. Mais je vous dirai qu'on perd à la bourse, que quand on joue avec un brelan, on peut en rencontrer un autre. Si vous ne jouez pas, pensez que vos écus, votre tranquillité monnayée, votre bonheur d'or et d'argent sont chez un banquier qui peut faillir, ou dans les fonds publics qui peuvent ne pas payer. Je vous dirai qu'enfin, tout glacé que vous êtes, vous pouvez aimer quelque chose. Il peut se détendre une fuite profonde de vos entrailles, et vous pouvez pousser un cri qui ressemble à de la douleur. Quelques jours, errant dans les roues boueuses, quand les jouissances matérielles ne seront plus là pour user votre force oisive, quand le réel et le quotidien vous manqueront, vous pouvez d'aventure venir à regarder autour de vous avec des joues creuses et à vous asseoir sur un banc désert à minuit. Ô hommes de marbre, sublimes égoïstes, inimitables raisonneurs, qui n'avez jamais fait ni un acte de désespoir ni une faute d'arithmétique, si jamais cela vous arrive, à l'heure de votre ruine, ressouvenez-vous d'Abélard quand il eut perdu Héloïse, car il aimait plus que vous vos chevaux, vos écus d'or et vos maîtresses, car il avait perdu en se séparant d'elle plus que vous ne perdrez jamais, plus que votre prince Satan ne perdrait lui-même en retombant une seconde fois des cieux, car il aimait d'un certain amour dont les gazettes ne parlent pas, et dont vos femmes et vos filles n'aperçoivent pas l'ombre sur nos théâtres et dans nos livres, car il avait passé la moitié de sa vie à la baiser sur un front candide en lui apprenant à chanter les psaumes de David et les cantiques de Saül, car il n'avait qu'elle sur terre, et cependant Dieu l'a consolée. Croyez-moi, lorsque dans vos détresses vous penserez à Abélard, vous ne verrez pas du même œil les doux blasphèmes du vieux Voltaire et les badinages de Courier. Vous sentiez que la raison humaine peut guérir les illusions, mais non pas guérir les souffrances, que Dieu l'a faite bonne ménagère, mais non pas sœur de charité. Vous trouverez que le cœur de l'homme, quand il a dit « Je ne crois à rien, car je ne vois rien », n'avait pas dit son dernier mot. Vous chercherez autour de vous quelque chose comme une espérance. Vous irez secouer les portes des églises pour voir si elles branlent encore. Mais vous les trouverez murées. Vous penserez à vous faire trappiste. Et la destinée, qui vous raille, vous répondra par une bouteille de vin du peuple et une courtisane. Et si vous buvez la bouteille, si vous prenez la courtisane et l'emmenez dans votre lit, sachez comme il en peut advenir.